Deutsche Welle, le journal. Constance von Kotze.
Merci de nous rejoindre sur les ondes de la Deutsche Welle. Il est 17h en temps universel, une heure de plus dans nos studios. À la une de ce lundi 16 janvier 2017, on se demandera que fait Adama Barrow au Sénégal. À quelques jours de son investiture à la tête de la Gambie, le président élu séjourne à Dakar et nous essaierons donc d'y voir plus clair dans un instant. Que signifie la décision du Burundi de retirer ses troupes de Somalie? La réponse du premier vice-président du pays. Nous parlerons aussi des réactions en Allemagne après les dernières déclarations de Donald Trump concernant l'Union européenne. Et puis la CAN, bien sûr, on rejoindra en fin de journal Noël Tadénion qui suit en ce moment même le match Côte d'Ivoire-Togo. Et c'est bien sûr au Gabon. Mais pour commencer, le Flash Info présenté comme souvent et toujours même par Philippe Pognon après de vives critiques du futur président des États-Unis, Donald Trump, à l'égard de l'Union européenne, la chancelière allemande a affirmé que les Européens avaient leur destin en main, Philippe.
Oui, dans un entretien aux journaux allemands Bild et britannique The Times, Donald Trump, qui doit prendre ses fonctions vendredi, a qualifié l'Alliance Atlantique d'obsolète. Le futur président américain a par ailleurs salué la décision de la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne. Il a prédit même que d'autres pays membres risquent fort de faire la même chose et il a en outre dénoncé la politique d'accueil migratoire de la chancelière allemande Angela Merkel. C'est une grande dirigeante, mais je pense qu'elle a fait une erreur vraiment catastrophique qui a été d'accueillir tous ces illégaux. Vous savez, prendre tous ces gens d'où qu'ils viennent et personne ne sait d'où ils viennent. Lors d'une conférence de presse à Berlin, Angela Merkel a affirmé que les Européens ont leur destin en main. Elle a affirmé vouloir continuer s'engager pour que les 27 États membres travaillent ensemble pour l'avenir face aux défis du 21e siècle.
Et on en reparlera en fin de journal. Plusieurs groupes rebelles syriens veulent participer aux prochaines négociations de paix sur la Syrie. Elles sont prévues à Astana, au Kazakhstan.
Oui, les principaux groupes rebelles syriens ont donné ce lundi même leur accord pour participer aux pourparlers militaires avec le régime. Pourparlers prévus la semaine prochaine donc à Astana, la capitale du Kazakhstan, pour tenter de mettre fin à près de 6 ans de guerre civile. Organisé par la Russie et l'Iran qui appuient le régime et la Turquie qui soutient ces rebelles, les négociations qui commenceront le 23 janvier à Astana ont donc pour objectif de bâtir un cessez-le-feu solide dans tout le pays, cela à l'exception des zones tenues par les djihadistes.
10 ex-détenus du camp américain de prisonniers de Guantanamo à Cuba sont arrivés dans le sultanat d'Oman.
C'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères à Mascate, sans toutefois préciser les nationalités des détenus appelés à résider de manière provisoire à Oman. Ce pays de la péninsule arabique a ainsi répondu à une demande de l'administration américaine. Si le président Barack Obama a sensiblement réduit le nombre de détenus à Guantanamo, il n'a toutefois pas réussi à tenir sa promesse de fermer le camp. Un camp mis en place sous l'administration de son prédécesseur George W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001 et qui a permis, sans procès, de maintenir en détention des terroristes présumés. Aujourd'hui encore, 45 d'entre eux y sont détenus.
Au moins 37 morts, tel est le bilan d'un accident d'avion au Kyrgyzstan.
Le Boeing 747 de la compagnie ACT Airlines, un avion cargo turc qui assurait une liaison entre Hong Kong et Istanbul, s'est écrasé sur un village près de l'aéroport de Bishkek, la capitale du Kyrgyzstan. La plupart des victimes sont des habitants du village, dont 6 enfants, selon le ministère de la Santé. Les 4 membres d'équipage de l'avion ont été tués, ont précisé les services médicaux. Selon les premières conclusions d'experts, l'accident serait dû à une erreur de pilotage.
Et puis au Bangladesh, un tribunal a condamné 26 personnes à la peine capitale pour l'enlèvement et le meurtre de 7 personnes.
26 suspects ont été condamnés à mort par pendaison, 9 autres à des peines de prison s'étendant de 7 à 17 ans. La majorité des condamnés faisaient partie d'unités antiterroristes de la police. C'est au terme d'un procès très suivi au Bangladesh qu'un juge a reconnu les 35 suspects coupables des enlèvements et meurtres de 7 personnes dans la ville de Narayanganj, au sud de la capitale Dakar, en avril 2014. Cette affaire entre dans le cadre de règlement de compte entre cadres locaux du parti au pouvoir.
Les dernières nouvelles du monde avec Philippe Pognon. Merci Philippe. Et il est 17h05, ou 4 plutôt, 5 presque, en temps universel, la même heure à Dakar, la suite du journal. « En Gambie, à moins de 72 heures de la fin officielle du mandat du président Yahya Jammeh, son successeur élu Adama Barrow est arrivé hier au Sénégal voisin. Et c'est la présidente en exercice de la CEDEAO, la libérienne Hélène Johnson-Sirleaf, qui a demandé à son homologue du Sénégal de recevoir Adama Barrow en attendant son investiture, censée donc avoir lieu ce jeudi. Pour en parler, nous sommes en studio avec Fiacre Ndayeradjie. Bonsoir Fiacre.
Bonsoir Constance.
Alors, que le Sénégal soit désigné pour accueillir Adama Barrow, cela paraît quand même plutôt curieux, Fiacre, vu que les relations entre la Gambie et le Sénégal sont loin d'être bonnes en ce moment.
Oui, il y a longtemps que le climat politique est lourd entre ces deux pays qui pourtant ont des liens très anciens du point de vue historique et social. La Gambie et le Sénégal partagent certaines ethnies et la Gambie n'a qu'un seul voisin qu'est le Sénégal. Le choix donc du Sénégal ne relève pas de l'imprudence, explique le politologue ivoirien Moquette César Flane, directeur du Centre de recherche et politique d'Abidjan.
C'est une question de démocratie purement et simplement. En raison de la situation géographique de la Gambie, qui est un pays incrusté dans le Sénégal, qui n'a qu'une seule frontière terrestre avec un pays qui n'est que le Sénégal. Je pense que le Sénégal est le pays le plus concerné dans cette crise, dans la mesure où Dakar est plus proche de Banjul, et le fait que M. Yahya Jammeh refuse de céder le pouvoir.
Mais le président sortant Yahya Jammeh ne semble pas vouloir céder, Fiacre, puisque son camp a même donné des injonctions à la justice pour ne pas permettre l'investiture du président élu Yahya Jammeh.
Effectivement, mais pour l'instant, rien ne prouve, Constance, que les juges de la Cour suprême pourront donner suite à cette injonction. C'est du moins l'avis de Maurice Topane, chercheur au bureau ouest-africain de l'Institut d'études de sécurité.
Le recours introduit pour bloquer l'investiture de Barrow risque de ne pas avoir effet. Le problème, c'est comment, dans un contexte tendu avec des risques sécuritaires, la CEDEAO arrivera à organiser une investiture d'Adama Barrow en Gambie. Il est clair que Yahya Jammeh veut une transition contrôlée qui lui permettra de prendre les dispositions nécessaires pour être à l'abri de poursuites.
Et par contre, que la situation dans le pays nous dégénère en un conflit armé, des milliers de Gambiens continuent de fuir vers le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée-Bissau.
Merci Fiacre pour ces précisions et on continuera bien sûr de vous tenir informés, surtout le jour de l'investiture prévue donc du président élu Adama Barrow. Si vous voulez réagir en attendant à ce sujet, n'hésitez pas surtout à nous écrire un mail à français@dw.com et puis vous pouvez aussi nous poster un commentaire sur notre page Facebook.
Deutsche Welle. Rendez-vous sur facebook.com/dw.français.
En République démocratique du Congo, les tractations se poursuivent toujours concernant la mise en place du gouvernement de transition qui doit conduire le pays aux prochaines élections et en principe au départ du président Joseph Kabila. Et aujourd'hui, 16 janvier, cela fait 16 ans que son père, l'ancien président Laurent Désiré Kabila, a été assassiné. Et cela fait aussi 16 ans qu'une cinquantaine de personnes croupissent toujours en prison après avoir été condamnées dans le cadre de cette affaire. Des délégués qui participent aux négociations en cours sous l'égide de la CENCO ont demandé d'ailleurs leur libération immédiate et sans condition. Pendant ce temps-là, dans l'est du pays, on entend à nouveau parler des rebelles du mouvement du 23 mars, le M23, et ce, presque 3 ans après leur défaite face à l'armée gouvernementale appuyée par la brigade d'intervention de la MONUSCO. Selon des sources gouvernementales, ces rebelles ont quitté l'Ouganda et ont foulé le sol congolais par Ishasha, un poste frontalier situé en territoire de Rutshuru. Mis au courant de cette information, les habitants de la ville de Goma, auquel la Deutsche Welle a tendu son micro, expriment ici leurs inquiétudes. Écoutez.
En tout cas, on doit être nécessairement très frustrés parce que ça nous a laissé beaucoup de chocs. Toute la population du Nord Kivu, en tout cas, je dirais de renforcer nos militaires à la frontière. Donc, barrer la route à quiconque pourra vouloir franchir les frontières congolaises.
Et je ne souhaite pas que ces gens reviennent dans notre pays parce qu'ils nous font du mal. On a des mauvais souvenirs que nous avions gardés. Il y avait des balles perdues qui nous trouvaient dans nos maisons et les bombes qui qui venaient jusqu'à détruire les maisons et tuer les gens.
Il y avait des familles qui étaient terriblement touchées. Quelqu'un disait même qu'ils ont été violés. Alors, les M23 retournaient encore sur le sol congolais, ça nous effraie. On ne peut que demander qu'il y ait une bonne intervention qui va garantir la stabilité et la paix.
Notre gouverneur, il alerte la population. Chaque fois qu'il a une moindre information, c'est quelque chose que nous encourageons. Et puis nous encourageons aussi le gouvernement central, cette fois-ci, à ne pas croiser les bras.
Avec le M23, savez-vous que c'est un mouvement qui est venu décimer la population congolaise, et nous avons des souvenirs qui sont tellement macabres qu'on ne veut plus revoir. Nous nous disons que non, il faut un changement à la tête du pouvoir. Voilà, s'il n'y a pas changement, si les mêmes personnes restaient au pouvoir, nous allons revoir les mêmes tragédies.
Un mauvais message pour moi. Ma sœur m'avait raconté une histoire là. Elle a pris juste un enfant, commençait à faire les pieds d'ici jusqu'au Rwanda. Et ils ont marché avec l'enfant, donc c'était vraiment pénible. En tant que Congolais, nous ne voulons pas la guerre.
Voilà, des réactions d'habitants de Goma dans l'est de la République du Congo. Des réactions au micro de notre correspondant sur place, Jacques Vaheni. S'achemine-t-on vers un retrait des soldats burundais de l'AMISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie? En tout cas, la présidence burundaise a officiellement entamé le processus prévu en vue du retrait de ses troupes qui sont déployées dans ce pays pour combattre les islamistes Shebab. À travers cette décision, Bujumbura entend ainsi protester contre le non-paiement des soldes des militaires qui composent ce contingent. Ceux-ci n'auraient pas été payés depuis près d'un an, car l'Union européenne, qui finance les salaires de la mission de l'Union africaine en Somalie, a décidé de ne plus verser directement à Bujumbura les sommes dues à ces soldats, soit 5 millions d'euros par mois. Une situation qui a suscité, vous vous en doutez, la colère du premier vice-président du Burundi, Gaston Sidimwo, répond aux questions d'Éric Toupona.
Ces grandes puissances disent qu'il y a le droit de l'homme. Comment voulez-vous qu'il y ait le droit de l'homme quand vous piétinez le droit de l'homme des autres? Quand vous faites travailler des militaires pendant 11, 12 mois sans les payer, vous croyez que ce n'est pas les violations des droits de l'homme?
Oui, si je vous comprends bien, vous demandez simplement que l'Union européenne verse le solde de vos militaires déployés en Somalie, hein, c'est ça?
Non, je ne demande pas à l'Union européenne parce que nous n'avons pas fait un contrat avec l'Union européenne. Nous demandons à l'Union africaine de pouvoir payer, verser les soldes dits aux militaires burundais. Là, l'Union africaine va trouver ses moyens. Je ne sais pas. Si c'est l'Union européenne, il n'a qu'à verser cet argent.
Pourtant, le gouvernement burundais s'apprêtait à entamer des démarches avec l'Union africaine pour un redéploiement supplémentaire des forces burundaises en Somalie. Est-ce que ce n'est pas contradictoire?
Les démarches doivent se poursuivre parce que nous demandons aussi la démarche du paiement des soldes de nos militaires.
Gaston Sindimou, est-ce que ce n'est pas dommage de retirer vos troupes? Car on sait que la participation des soldats burundais au sein de l'AMISOM est très bien appréciée. Est-ce que ce n'est pas dommage de les retirer?
C'est dommage. Et nous sommes errés quand vous dites cela. Est-ce que le reste du monde le voit ainsi? Ce qui nous fait mal et ce qui nous fait quand même se poser plusieurs questions par rapport à ces bailleurs.
Oui, mais justement, ces bailleurs invoquent le déficit de démocratie dans votre pays. Est-ce que vous allez accepter de tout remettre sur la table à l'occasion du dialogue qui débute à Arusha pour peut-être faire peser la décision de vos bailleurs?
Je veux vous dire que les bailleurs ne sont pas capables aujourd'hui de nous dicter ce que nous devons faire sans le consentement du peuple burundais et du gouvernement du Burundi. Donc, qu'ils cessent de chercher des prétextes, ça c'est inacceptable. Le gouvernement du Burundi a accepté le dialogue et nous sommes en dialogue. Pourquoi eux ne peuvent pas payer nos militaires? Est-ce que ça a de rapport? Aujourd'hui, nous sommes en phase de préparer les prochaines élections de 2020. Qu'on les prépare ensemble, sereinement. Est-ce que vous allez les préparer quand vous retirez nos troupes? Non, c'est fait de l'amalgame.
C'était Gaston Sidimwo, premier vice-président du Burundi. Le Burundi, qui, on le rappelle, a déployé au sein de l'AMISOM 5400 soldats sur un total de 22 000 hommes, ce qui fait du Burundi donc le deuxième contingent après l'Ouganda. Ces soldats ont été déployés pour lutter, on le rappelle, contre les islamistes Shebab en Somalie. En plus bref, en Côte d'Ivoire, panique aujourd'hui au lycée international Jean Mermoz, l'un des deux établissements français d'Abidjan. Des manifestants et des casseurs se sont introduits dans les locaux, conduisant la direction à fermer jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs autres établissements privés de la capitale économique de la Côte d'Ivoire ont été touchés par des actions similaires. Officiellement, ces attaques ont pour objectif de pousser les établissements privés à suivre la grève de la fonction publique qui a débuté il y a une semaine. Ces incidents interviennent par ailleurs, alors que le pays a été ébranlé ces derniers jours par une mutinerie militaire qui n'a pris fin que ce week-end, les autorités et les soldats ayant trouvé finalement un accord. Côte d'Ivoire toujours, Daniel Kablan-Duncan a prêté serment au palais présidentiel et a été investi vice-président aujourd'hui. Un nouveau poste créé, on le rappelle, par la Constitution promulguée en novembre dernier. Et puis au moins 3 personnes ont été tuées et 15 blessées dans un attentat suicide sur le campus universitaire de Maïdougouri, la grande ville du nord-est du Nigeria. Pour le moment, aucune revendication n'a été enregistrée, mais l'attentat semble porter la marque du groupe djihadiste Boko Haram.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Le procès de l'ancien chef de guerre de la LRA, l'Ougandais Dominic Ongwen, a repris ce matin devant la Cour pénale internationale à La Haye. L'accusé faisait partie des hauts responsables de l'armée de résistance du Seigneur, réputée pour être la milice la plus brutale en Afrique. Mais le procès Ongwen se déroule à des milliers de kilomètres des lieux des crimes. Sur place, les sentiments sont mitigés quant à cette procédure devant la CPI. Simone Schlenwein et Fréjus Kenom.
La vie à Gulu, dans le nord de l'Ouganda, est redevenue paisible depuis une dizaine d'années, depuis que la LRA s'est retirée dans des pays voisins. Mais à Gulu, aujourd'hui, le procès de Dominic Ongwen, à des milliers de kilomètres de l'Ouganda, semble rouvrir les blessures. Assis sur un banc d'école, à côté de quelques-uns de ses élèves, Alexander Ochen, un instituteur âgé de 47 ans, connaît bien Dominic Ongwen. Il dénonce le procès qui a lieu à La Haye.
My opinion is
Je suis contre ce procès. Je sais qu'il faut qu'il y ait la justice, mais ce procès renvoie un mauvais signal. J'ai toujours prié intérieurement pour qu'il y ait une amnistie et un système de justice communautaire mettant face à face victimes et bourreaux. Cela pourrait faire avancer le processus de réconciliation.
Alexander Ochen a été lui aussi enrôlé dans la LRA et a eu à diriger des opérations sanglantes au nom de cette organisation.
Un jour, j'ai rencontré un garçon qui avait été enlevé. Il m'avait reconnu dans un marché. Il était accompagné de sa mère et lui criait « Regarde, c'est cet homme qui a tué des gens dans notre village. » C'était dur. Je me suis mise ensuite à genoux pour demander pardon. La mère du garçon était en pleurs. Elle m'a pardonné et nous étions devenus des amis. Elle m'a même offert 2 poulets.
Dans le nord de l'Ouganda, beaucoup de personnes pensent qu'une justice communautaire pourrait mieux aider à cicatriser les blessures qu'une procédure loin là-bas devant la CPI. Margaret Achiro est mère de 3 enfants. Les rebelles de la LRA lui ont coupé les lèvres et le nez. Aujourd'hui, elle se montre rarement en public.
Je ne m'intéresse pas à ce procès. Je n'ai pas le sentiment d'en tirer un quelconque profit. Peut-être que je sentirais la justice si j'obtenais une sorte de dédommagement afin de reprendre une vie normale.
Si Dominic Ongwen est condamné à La Haye, les victimes auront droit au dédommagement. Mais cela pourrait encore prendre du temps.
Et au Kenya, la commission électorale a lancé une vaste opération d'enregistrement des électeurs en vue des élections générales prévues en août. Les 2 principaux camps ont appelé leurs partisans à s'enregistrer en masse pour peser notamment sur la présidentielle. Il faut dire que l'enjeu est taille. La commission électorale compte sur l'enregistrement de 4 à 6 millions d'électeurs supplémentaires d'ici la date limite du 14 février. Autrement dit, de quoi faire basculer un scrutin en faveur de celui qui parviendra à mobiliser ses partisans. On sait déjà que l'actuel président Uhuru Kenyatta briguera un second mandat. Le recyclage des déchets plastiques, c'est l'un des sujets abordés cette semaine par Kossi Vitiassou dans le magazine Environnement. Ce sera dans une grosse dizaine de minutes. Environnement qui sera suivi du magazine Santé. Audrey Parmentier se penche, elle, sur de nouvelles méthodes pour soigner la pneumonie chez les bébés. Vous écoutez la Deutsche Welle, il est 18h19 à Bonn. Donald Trump a encore frappé. 5 jours avant son entrée en fonction, il a accordé une interview au quotidien britannique Times et allemand Bild. Interview dans laquelle le président élu des États-Unis s'en prend notamment à l'OTAN, l'Union européenne et à Angela Merkel. Une interview qui a suscité de nombreuses réactions. Les détails avec Rémi Mallet.
Comme à son habitude, le magnat de l'immobilier n'a pas mâché ses mots. L'OTAN est obsolète. Le Royaume-Uni a eu bien raison de quitter l'Union européenne. Et Angela Merkel était une grande dirigeante, mais sa politique migratoire constitue une erreur catastrophique. Publiée dans la nuit par le quotidien le plus lu d'Allemagne, l'interview suscite des inquiétudes, notamment à Bruxelles où les ministres européens des Affaires étrangères avaient rendez-vous ce matin. Frank-Walter Steinmeier, le chef de la diplomatie allemande.
Je sors tout juste d'un entretien avec M. Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Les déclarations de Donald Trump ont été reçues avec inquiétude, d'autant qu'elles sont contradictoires avec les propos du futur secrétaire d'État à la Défense, qui a été auditionné il y a quelques jours seulement à Washington. Nous devons attendre de voir ce que tout cela va signifier pour la politique américaine à venir.
Attendre, c'est aussi ce que préconise la chancelière Angela Merkel, qui n'a pas semblé particulièrement impressionnée par l'interview de la Bild-Zeitung. Trump reste Trump, résume pour sa part Norbert Röttgen, président de la Commission des affaires étrangères du Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand. Membre du parti d'Angela Merkel, il était interrogé ce matin par nos confrères du Deutschlandfunk.
Sa pensée se concentre sur les intérêts des États-Unis à court terme, des intérêts classés par catégorie, économie, emploi et puissance. Peut-être est-ce ainsi que l'on peut mieux le comprendre.
Trump interview exclusive. La Bild-Zeitung ne cachait pas sa satisfaction d'être le premier média du pays à obtenir un rendez-vous avec le futur président américain quelques heures seulement avant son investiture. Outre le fait que certains confrères ont critiqué le peu de sérieux avec lequel a été mené l'entretien, ce dernier n'aura pas vraiment permis d'en savoir plus sur les relations à venir entre les États-Unis et l'Allemagne.
Et face aux menaces de Trump concernant les importations aux États-Unis de produits fabriqués au Mexique, dont des voitures allemandes, le vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel a prédit que l'industrie automobile américaine en sortirait moins bonne, plus faible et plus chère. La Fédération allemande de l'automobile a, elle, dit prendre au sérieux les déclarations du futur président, même s'il reste à voir si elles seront mises en œuvre par l'administration américaine. Vous écoutez la Deutsche Welle, il est 18h22 en studio et c'est l'heure de retrouver Philippe Pognon pour la revue de la presse allemande. Une presse dans laquelle on parle beaucoup, mais pas que, de Donald Trump. Les journaux commentent aussi la conférence de Paris sur le Proche-Orient qui s'est tenue hier en présence des représentants de 70 pays dans la capitale française, mais en l'absence des principaux intéressés, à savoir palestiniens et israéliens, Philippe.
On a parlé des Israéliens et des Palestiniens, relève le quotidien de Tagesspiegel, mais pas avec eux. À part cela, il faut noter que depuis plus de 20 ans, chaque tentative de médiation internationale a échoué. Et à Jérusalem, on se montre pour le moins cynique sur cette conférence de Paris. Conférence que le Premier ministre israélien a décrite comme les derniers soubresauts d'un monde révolu. Demain sera différent, a assuré Benjamin Netanyahou. Ce que cela veut dire en clair, le dirigeant israélien mise sur le futur président américain Donald Trump et son entière solidarité avec Israël. Un autre quotidien berlinois, Die Tageszeitung, estime que personne ne devrait savoir mieux que John Kerry, le chef de la diplomatie américaine de l'administration sortante, à quel point cette conférence est superflue. Lui qui, en tant que médiateur, a tenté vainement pendant des mois de rapprocher les protagonistes du dossier israélo-palestinien, a revalorisé cette supercherie collective à Paris en y participant malgré tout. Israël ne se laisse pas imposer la paix, ni par des menaces, ni par des promesses. Quant aux Palestiniens, ils ne sont même pas en mesure de se mettre d'accord entre eux, conclut Die Tageszeitung.
Autre thème évoqué par les journaux, Philippe, le débat sur les fake news. Ce sont les fausses informations lancées sur des réseaux Internet comme Facebook.
Devenu, malgré lui, l'un des principaux vecteurs de diffusion des fausses informations, Facebook, plateforme qui compte 1,790 milliard d'utilisateurs mensuels, a annoncé prendre une série de mesures pour en limiter la portée. Le quotidien Neue Osnabrücker Zeitung estime que l'entreprise a apparemment reconnu que les fake news qui circulent sont à la longue un véritable poison pour Facebook et son modèle commercial. Chaque fausse information diffusée sur cette plateforme en réduit la crédibilité. La conséquence en sera que le chef de Facebook, Mark Zuckerberg, et consorts perdront de l'argent quand les internautes en auront assez de toutes ces fausses informations et qu'ils délaisseront de telles plateformes.
Merci Philippe pour la presse. Je vous le disais en titre, en principe on devait rejoindre notre correspondant Noël Tédénion qui est au Gabon en ce moment pour suivre la CAN et pour suivre surtout le match Togo-Côte d'Ivoire qui est en cours en ce moment. Pour le moment c'est 0-0. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à joindre Noël qui est éventuellement déçu par le résultat. On va pour l'instant parler avec Mireille Drone qui nous a rejointe en studio pour la page de l'auditeur. On arrivera peut-être à joindre Noël plus tard. Mireille, bonsoir.
Bonsoir Constance, bonsoir à tous.
Et ce soir, vous avez des auditeurs et des internautes qui suivent l'actualité en République démocratique du Congo.
Et oui, au sujet de l'assassinat le 16 janvier 2001 du président Laurent Désiré Kabila, Peter de Johannesburg en Afrique du Sud estime que la mort de Mzé Kabila était un complot sur lequel la lumière n'a toujours pas été faite jusqu'à ce jour. Nous tous savons que Kabila, soi-disant fils, est celui qui a fait tuer Laurent Désiré Kabila. On en a marre, affirme-t-il. René, qui nous écrit du Rwanda, pense aussi que c'était la volonté de Joseph Kabila d'éliminer son père parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour lui de prendre la présidence. Jusqu'alors, cet assassinat reste flou, remarque aussi Bewezima de Lomé au Togo, mais il pense que tôt ou tard, Joseph Kabila sera rattrapé par son passé. Et puis en ce qui concerne la prise d'une localité dans l'est du pays par les rebelles du M23 venus d'Ouganda, Sonny de Mweneditu en RDC observe que l'Ouganda a toujours démenti son soutien supposé à ces rebelles. Mais ce pays est le premier à armer les ex-M23 dans une zone déchirée par la guerre. Et Claude de Bukavu, dans l'est de la RDC, croit à un complot régional entre les présidents congolais Kabila, Rwanda, Kagame et Ougandais Museveni pour déstabiliser encore le pays.
Et bien, il y a aussi des commentaires concernant la situation politique à Kinshasa.
Oui, Hyacinthe du Congo Brazzaville nous a laissé un message sur notre répondeur.
La constitution de RDC n'est plus un texte de référence car elle ne prévoit pas de prolongation de mandat présidentiel. Il y a donc volonté d'exclusion que de veiller au respect des critères constitutionnels de nomination du Premier ministre. Parallèlement donc aux discussions en cours, devrait être rédigée une charte qui supplante la Constitution.
Et puis Patrick de Kinshasa dit douter du respect des clauses de l'accord du 31 décembre 2016, notamment le respect des délais prévus pour les élections. Je dénonce le fait que le pays retombe dans la crise de la légitimité et un retour à la case départ, c'est-à-dire une nouvelle transition en lieu et place d'un processus irréversible de démocratisation. Et selon notre auditeur, la médiation de la CENCO porte atteinte aux valeurs des républicaines parce que la RDC est un État laïque, c'est la volonté populaire qui est inclusive et non celle des individus, écrit-il.
Merci Mireille Drone et merci à tous les auditeurs qui nous ont et qui vous ont écrit. Des auditeurs qui suivent peut-être en ce moment même le match Côte d'Ivoire-Togo, c'est bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon dont il s'agit. Et je crois qu'on a retrouvé Noël Tédénion, notre correspondant qui est sur place à Ouyem. Noël, bonsoir. Noël, est-ce que vous nous entendez? Noël Tédénion. J'ai l'impression qu'il est tombé dans les pommes car le score est toujours de 0-0. On en est à la 67e minute et c'est donc la troisième journée aujourd'hui de la compétition avec l'entrée en action du groupe C qui est très fort en niveau. Et donc ce sont d'abord les éperviers du Togo qui croisent en ce moment même les crampons avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et c'est à Ouyem, mais j'ai l'impression que Noël n'est pas là. Un petit signe de la technique, non? J'ai l'impression que Béatrice à la technique nous fait non de la tête. Je crains qu'on ait perdu Noël. Mais donc le score est toujours 0-0. Et au terme des 45 premières minutes, apparemment, il n'y avait pas beaucoup d'occasions de but. Les deux équipes rentraient au vestiaire dos à dos. Et pour le moment, On n'a pas de nouvelles de Noël. Mireille, vous êtes toujours avec nous.
Oui, on peut peut-être en profiter pour dire à nos auditeurs que s'ils veulent réagir justement sur cette canne, par exemple, ils peuvent nous retrouver sur Facebook ou nous envoyer bien sûr aussi encore des mails à françaisdw.com/français. Ça, c'est notre site internet où vous pouvez trouver aussi nos pages Facebook et Twitter. Et puis aussi, bien sûr, sur WhatsApp aussi, commenter cette canne, si vous la suivez avec intérêt ou non, pour qui votre cœur bat, bien entendu. S'il y a des intérêts peut-être même différents entre vous, entre amis, ainsi de suite, dites-nous tout ce que vous en pensez.
Et Mireille, bien sûr, s'en fera l'écho dans la page des auditeurs. On espère tout de même pouvoir joindre plus tard Noël Tédéignan, même s'il ne sera pas en direct. En tout cas, Côte d'Ivoire-Togo, c'est toujours 0-0 à la 70e minute. Il est 17h30 en temps universel et on retrouve Kossi Vitiassou pour le magazine Environnement.